seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
On retrouve Clara Marie en charge de la communication et Sébastien Roche, technicien de rivière du syndicat mixte du bassin de l'Authion et de ses affluents.
Syndicat mixte du bassin de l'Authion et de ses affluents qu'on appelle aussi SMB2A. Donc en fait c'est une collectivité territoriale qui est en charge de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l'Authion. Donc le bassin versant de l'Authion il s'étend à peu près d'Angers jusqu'à Bourgueil, donc à cheval sur deux départements, l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire. Donc c'est un bassin qui fait un peu plus de 1500 km² avec plus de 1200 km de cours d'eau. Et donc nous, sur ce territoire, on exerce la compétence GEMA. Ça signifie gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Donc normalement, c'est une compétence qui est attribuée aux communautés de communes. Mais donc dans certains cas, donc les communautés de communes peuvent décider de déléguer en fait cette compétence à des syndicats mixtes. En fait, le bassin versant, c'est tout le territoire qui va recevoir les eaux de pluie, des eaux qui vont ruisseler jusqu'aux rivières, qui vont stagner dans des zones humides. Et donc en fait, la limite de ce bassin versant, ça va être tout simplement les lignes de crête. Donc nous, le bassin versant de l'Authion, il a quand même une topographie assez particulière. Donc en fait, toutes les parties amont du bassin versant, on va retrouver donc des petits cours d'eau comme le Coinon, le Latan, le Changeon, qui vont y prendre leur source. Ces cours d'eau donc, se jettent ensuite dans l'Authion. Bon, là, on est sur la partie avec beaucoup moins de relief qu'on appelle en fait le Val d'Authion. Donc c'est un val qui a été aménagé pour favoriser l'agriculture. Moi, mon métier, c'est chargé de communication. Donc c'est de mettre en avant les actions qui sont faites par mes collègues. Donc sur plusieurs volets. On va avoir le volet restauration des milieux aquatiques. On va avoir le volet aussi accompagnement vers les changements de pratiques.
On passe la parole à Jean-Baptiste Roche, technicien de rivière. Mais c'est quoi un technicien de rivière ?
Un technicien rivière, ça fait beaucoup de choses. Donc en fait, moi, mon métier, c'est de restaurer les rivières, de faire en sorte de leur redonner leur fonctionnalité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale en France, entre les années 50 à 2000, les rivières ont été curées pour des raisons notamment agricoles. Et on se rend compte aujourd'hui qu'à cause de ces travaux, il y a beaucoup de dysfonctionnements qu'on paye, avec des rivières qui fonctionnent moins bien, qui ont tendance à plus s'assécher, à créer des inondations plus facilement aussi. Donc nous, notre métier, c'est de restaurer la rivière pour redonner ses fonctionnalités, tout en permettant les usages de perdurer. Pour nous, il est hors de question d'aller restaurer une rivière, d'aller empêcher un agriculteur de pouvoir faire son métier correctement. Il y a plein de techniques différentes. Là, cette année, on va lancer une étude spécifiquement sur le Changeon, donc c'est le secteur que je gère. Une étude pour retrouver les champs d'expansion de crues de la rivière. Donc l'idée, ça va être, on fait une grosse étude pour faire déborder la rivière sur certains secteurs, sur les secteurs qu'on a choisis, sur les secteurs où les enjeux le permettent, par exemple des bois ou des prairies. Le deuxième intérêt, c'est que le fait de faire déborder la rivière l'hiver sur les parcelles voisines permet aux nappes de se recharger d'une meilleure manière, ce qui permet d'avoir plus d'eau l'été, de pouvoir aussi avoir des zones humides qui fonctionnent bien. Ce qu'on a de la chance sur le Changeon, c'est qu'on a beaucoup de zones humides, mais qui ont tendance à ne pas très bien fonctionner parce que le niveau de nappe a baissé, et donc elles ont perdu leur connexion avec la nappe alluviale de la rivière. D'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que les travaux, comme je vous ai dit, qui ont été faits dans le passé, ont tendance à accélérer, par exemple, les inondations. Une rivière, normalement, fait plein de méandres, plein de virages. En gros, tous les deux ans, une rivière doit déborder de son lit. Le fait d'avoir creusé ces rivières, de les avoir curées, les crues arrivent plus rapidement sur des points bas. Puis des fois, ça arrive au niveau de ville ou de choses comme ça. Donc, une rivière qui est creusée, qui est rectiligne, aura tendance à perdre plus facilement son eau et à drainer la nappe qu'elle a autour d'elle. Donc, dans ce contexte de changement climatique, il est d'autant plus important de pouvoir restaurer les rivières. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cours d'eau permet tous les usages, notamment l'alimentation en eau potable, puis usages qui se font dans les nappes alluviales des cours d'eau. Le cours d'eau rend plein de services avec, par exemple, l'auto-épuration des eaux. Une rivière qui fonctionne bien va permettre d'avoir une eau de bonne qualité. Processus physico-chimique qui se met en place avec les organismes qui vivent dans la rivière et qui permettent par exemple de faire partir une partie des nitrates. Et derrière, ensuite, il y a toute une phase de concertation avec les propriétaires, parce que nos cours d'eau sont sur des propriétés privées, sont propriétés des propriétaires riverains, et donc on doit travailler avec leur accord. Donc de la médiation, de la discussion pour expliquer l'intérêt du projet aux propriétaires et pour avoir leur accord.
Dialogue quelques instants avec Olivier Peyrastre, qui est chercheur en hydrologie à l'université Gustave Eiffel de Nantes. Il s'intéresse plus particulièrement aux crues des petits cours d'eau et aux inondations associées. Il nous explique comment sont étudiés ces phénomènes.
Et j'étudie plus particulièrement les phénomènes de crues, de petits cours d'eau et d'inondations associées. Et je m'intéresse à la façon dont on peut anticiper ces phénomènes et leurs impacts sur le territoire pour mieux prévenir la population et les autorités. La crue, c'est tout simplement l'élévation du débit d'un cours d'eau en réponse à une pluie. Et donc cette élévation de débit, elle va causer l'élévation du niveau d'eau dans la rivière qui va pouvoir à un certain moment déborder et générer ce qu'on appelle une inondation. Alors les crues sont très très dépendantes du cours d'eau considéré et de ce qu'on appelle le bassin versant, c'est-à-dire la surface qui est drainée par le cours d'eau. Et selon les cas, selon que cette surface est grande ou petite, la crue peut être plus ou moins rapide. Donc on a ce qu'on appelle des crues lentes, des crues fluviales, et puis des crues rapides ou des crues éclairs qui se produisent plutôt sur des cours d'eau amont. On peut distinguer d'autres types de crues qui ont des caractères assez spécifiques, comme par exemple les crues de nappe, qui sont des phénomènes très lents liés à l'élévation du niveau de la nappe qui alimente la rivière. Ce qu'on appelle les crues torrentielles, qui se produisent dans des cours d'eau de montagne à forte pente, qui ont la particularité non seulement d'amener de l'eau, mais de charrier beaucoup de sédiments. On a par exemple aussi des crues dites de fonte nivale, dans lesquelles l'eau de pluie va se combiner en lien avec le réchauffement de la température, avec la fonte du manteau neigeux qui va du coup augmenter l'intensité de la crue. Nous, notre objectif, c'est de mieux comprendre comment les cours d'eau réagissent aux phénomènes pluvieux et d'être en mesure de modéliser cette réponse des cours d'eau pour pouvoir ensuite faire des chaînes de modélisation qui vont permettre de prévoir les phénomènes, c'est-à-dire pouvoir décrire ce qui va se passer dans les différents tronçons de cours d'eau en termes d'élévation de débit, mais également en termes de risque de débordement et de dommages associés sur les territoires. On a beaucoup de systèmes de prévision qui sont déjà opérationnels, qui sont opérés en France par un réseau qu'on appelle le réseau Vigicru et qui permet de 24 heures à l'avance d'anticiper ce qui va se passer sur les principaux cours d'eau. Donc ce que j'ai appelé plutôt tout à l'heure les crues fluviales, les crues lentes. Et un enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable de déployer de services sur les petits cours d'eau amont qui pour l'instant ne sont pas couverts par des systèmes de prévision opérationnels. Ce que j'ai appelé tout à l'heure le bassin versant qui alimente un cours d'eau a un rôle déterminant dans la formation des crues et donc il est important de bien connaître le fonctionnement de ces bassins versants pour réaliser des prévisions de crues pertinentes. Et donc la prévision des crues, je dirais une combinaison entre deux disciplines scientifiques qui sont la météorologie et l'hydrologie. Donc la météorologie qui va aider à prévoir les pluies et l'hydrologie qui va aider à prévoir la réponse des cours d'eau à ces pluies. La crue qui se forme sur un cours d'eau amont va inévitablement se propager vers les cours d'eau aval. Et donc on a une dépendance très forte effectivement entre ce qui se produit à l'amont sur les qu'on appelle les têtes de bassin, donc les petits cours d'eau, et les crues va observer à l'aval sur les cours d'eau principaux. Et donc pour agir sur les crues des cours d'eau principaux, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe sur les petits cours d'eau amont. Des mesures de prévention des risques qui sont de plus en plus développées aujourd'hui, ça consiste à essayer de restaurer ce qu'on appelle des zones d'expansion de crues, donc des zones de débordement dans lesquelles on va laisser les cours d'eau inonder des zones relativement peu exposées en termes d'enjeux vulnérables. Et le fait de laisser l'inondation se former dans ces zones-là va permettre de limiter l'intensité de la crue à l'aval et donc de protéger des secteurs qui sont beaucoup plus vulnérables à l'inondation. Il existe forcément un lien effectivement entre la formation des crues et le régime pluviométrique et on sait aujourd'hui que le régime pluviométrique va être modifié. La tendance, c'est plutôt à des phénomènes extrêmes plus marqués, donc des pluies intenses, un peu plus fréquentes et un peu plus intenses. Quel va être l'effet sur les crues? La question est encore en débat parce qu'il peut y avoir des effets de compensation qui sont un peu difficiles à appréhender puisque les pluies vont être potentiellement plus intenses. Elles vont toucher des bassins versants et des sols qui potentiellement vont être plus souvent secs et qui vont pouvoir donc potentiellement à absorber un peu plus d'eau. Ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui avec le changement climatique, c'est même une accentuation de cette variabilité, voilà, avec des années sèches qui seront peut-être encore plus sèches qu'avant et des années humides qui seront peut-être encore plus humides.
Michel Boutreux, RPSFM.
C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.